Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Chine-États-Unis, le combat du siècle. C'était son dernier jour comme ministre de la Défense. Jim Mattis a quitté le Pentagone hier, quelques jours après avoir présenté sa démission à Donald Trump pour cause de désaccord sur le retrait des troupes déployées en Syrie. Un départ précipité pour celui qui était considéré comme un des rares modérés de l'administration américaine. Et une nouvelle preuve de l'instabilité et de l'imprévisibilité qui caractérise le pouvoir aux États-Unis. Tout l'inverse de ce qui se passe en Chine, ou en tout cas de ce que les Chinois laissent entrevoir. Si les hommes passent, les objectifs restent. À Pékin, on célébrait par exemple il y a quelques jours le 40e anniversaire des quatre modernisations, les grandes réformes lancées par Deng Xiaoping. Une planification à long terme que l'actuel président Xi Jinping entend poursuivre et approfondir. La Chine est bien l'autre grande puissance mondiale. Mais y a-t-il de la place pour deux? Le conflit commercial qui oppose depuis plusieurs mois Américains et Chinois témoigne d'une rivalité qui semble dépasser les seuls enjeux économiques, même si les deux pays ont déclaré une trêve le mois dernier. Il pourrait ne s'agir que d'un simple répit dans une compétition de longue haleine, avec pour horizon rien de moins que la place de numéro un mondial. Alors Chine-États-Unis, le combat du siècle, c'est la question du soir pour ce premier numéro du Grain de l'année. En votre compagnie, Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez publié cette année « Les États-Unis de Trump en 100 questions » aux éditions Talendier. Ce qui vous fait déjà un point commun avec notre deuxième invité Valérie Niquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Le point commun, c'est l'éditeur et c'est la collection. La puissance chinoise en 100 questions, donc toujours chez Talendier. Vous, c'était en 2017. Vous êtes maître de recherche à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la zone Asie-Pacifique. Et puis notre troisième invité, Pierre Grosser, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, professeur agrégé à Sciences Po, je citerai notamment, je le cite à chaque fois que vous venez, le traité avec le diable avec un point d'interrogation qui date déjà de 2013 et puis un peu plus récemment. L'histoire du monde se fait en Asie chez Odile Jacob, c'était en 2017. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, 1er janvier 2019, nous sommes au 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Washington et Pékin, entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que c'est un anniversaire important pour les deux parties, Pierre Grosser?
Je suis pas sûr que ce soit considéré comme un anniversaire important pour les deux parties. Ça a beaucoup changé la face du monde, puisque les années 70 ont transformé la scène internationale avec le rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Il faut bien se souvenir à quel point la Chine était un des adversaires majeurs des États-Unis pendant la guerre froide. Les Américains ont mené de nombreuses guerres en Asie, notamment en Corée, contre les Chinois, au Vietnam, contre des Vietnamiens fortement aidés par des Chinois. Et donc, c'est un tournant tout à fait majeur de se retrouver pratiquement ensemble. On parlait de quasi-alliance entre les États-Unis et la Chine contre un ennemi commun qui était l'Union soviétique. Et ça correspond à peu près, en 1979, à la fin des grandes guerres en Asie. Il n'y a plus de grandes guerres en Asie depuis 1979. La dernière de ces guerres, c'était justement la punition, entre guillemets, infligée par la Chine au Vietnam. Et puis surtout, pour les États-Unis, une transformation majeure, puisque de 45 à 79, tous les morts de guerre, pratiquement américains, sont morts en Asie. Et depuis 1979, pratiquement tous les morts de guerre américains meurent au Moyen-Orient. Donc de ce côté-là, l'Asie a été finalement écartée de l'horizon stratégique américain.
Est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas que 40 ans après l'établissement de ces relations diplomatiques, Valérie Niquet, les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi tendues qu'elles le sont aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on a tendance, comme souvent on le fait par rapport au phénomène historique, à surévaluer peut-être les tensions du moment et à oublier celles du passé?
Non, justement, elles sont effectivement extrêmement tendues aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça repose aussi sur un malentendu, parce que Pékin met très souvent en avant cette période idéale des relations entre la Chine et les États-Unis après 79 contre un ennemi commun, en oubliant que la situation stratégique, justement, n'est absolument plus la même. La Chine est beaucoup plus puissante. Il n'y a plus cette alliance contre la menace soviétique qui était la plus importante à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. Et aujourd'hui, le problème en Asie, c'est la Chine par rapport à ses voisins, que ce soit sur le plan économique et commercial, mais on en reparlera, surtout avec le reste du monde, et que ce soit d'un point de vue stratégique. Et c'est lié au fait que la Chine, elle, n'a pas véritablement évolué sur le fond de son système politique. Les motivations restent les mêmes, mais la situation stratégique, encore une fois, a changé. Et cet idéal d'une alliance avec les États-Unis qui qui remplacerait finalement l'alliance traditionnelle entre les États-Unis ou le Japon, à laquelle rêvaient les Chinois, elle est tout à fait impossible à imaginer dans les circonstances présentes.
Ça veut dire qu'ils ne rêvent plus du tout à cet idéal d'alliance ?
Il rêve à cet idéal d'alliance, mais il n'est pas possible. Les États-Unis ne vont pas se détacher de leurs alliés traditionnels, bien entendu, avec toutes les questions qu'on peut avoir sur Donald Trump, il n'est pas éternel, pour se rapprocher d'un pays qui, potentiellement, est extrêmement déstabilisateur pour la région.
Laurence Nardon, est-ce qu'on peut parler d'une forme de symétrie du côté, alors justement, des États-Unis ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a pu représenter le rapprochement avec la Chine pour les Américains ? Qu'est-ce que ça représente encore ? Et est-ce qu'il y a encore l'idée, peut-être aussi côté américain, de se dire il faut absolument qu'on ait une relation de coopération avec cette puissance qui est de plus en plus forte ? Ou bien c'est davantage la crainte qu'elle inspire qui domine aujourd'hui ?
C'est un peu tout ça à la fois, justement, parce que moi, ce que je trouve très intéressant, alors contrairement à Valérie Niquet, Pierre Grosser, je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine. En revanche, j'ai beaucoup travaillé sur le débat stratégique américain à propos de la Chine. Et ce qui est très très frappant, c'est de voir à quel point, enfin, je pense qu'on doit pouvoir dire ça aussi du Moyen-Orient ou de la Russie, mais enfin, dans le cas de la Chine, les relations que les États-Unis doivent construire avec ce pays sont interprétées par toutes les écoles de la politique étrangère américaine. Et ça qui est très intéressant. Vous avez les pragmatiques, ceux qui n'ont pas beaucoup de sens moral, comme Kissinger, qui ont prêché le rapprochement dans les années 70, justement, parce qu'il fallait mieux s'unir avec eux contre la Russie, enfin l'URSS de l'époque. Et puis après, le relais a été pris par des optimistes qui pensaient que en faisant rentrer la Chine dans l'OMC, on allait faire accéder les classes moyennes chinoises à la prospérité et que du coup elles réclameraient la démocratie. On a bien vu que ça ne s'était pas produit, mais c'était toute l'idée qui a remporté le débat à l'époque. Et puis aujourd'hui, on voit que le problème de la relation avec la Chine reste entier aux États-Unis. Est-ce que la puissance chinoise va dépasser la puissance américaine ? Ça, c'est l'angoisse permanente aux États-Unis. Comment on analyse cette puissance ? D'ailleurs, ça, c'est un sujet dont on reparlera. Est-ce que le système politique chinois, Valérie Niquet a déjà répondu que non, mais est-ce qu'il peut évoluer vers une véritable démocratie ? Puis enfin, la question du jour la plus brûlante est-ce que les deux pays sont de manière inexorable destinés à s'affronter ? Ou pas ? Est-ce qu'on peut échapper à cela dans les années à venir ?
Est-ce qu'on pourrait dire, Pierre Grosser, pour tenter alors de faire un premier petit bilan d'étape par rapport au début de cette discussion, que du côté des États-Unis, quand ils regardent la Chine, il y a une forme d'angoisse, et que du côté de la Chine, quand ils regardent les États-Unis, c'est plutôt une forme d'attente. Enfin, en tout cas, qu'on n'est pas dans la même perception de des relations qui peuvent exister entre ces deux grandes puissances.
Bon, il y a des problèmes de perception. Il y a eu justement... le 31 décembre, Jimmy Carter, qui justement était l'artisan de cette normalisation, qui a parlé de ces problèmes de perception, de mauvaise perception croisée. Mais je crois qu'il y a aussi des problèmes identitaires assez profonds, notamment du côté des États-Unis. Il faut bien voir que les États-Unis, sur pratiquement deux siècles, leur idéal, c'est que la Chine ressemble plus ou moins aux États-Unis et que par l'influence des missionnaires, des juristes, etc., etc., la Chine se transforme et ressemble de plus en plus, non pas pile aux États-Unis, exactement aux États-Unis, mais enfin, commence à y ressembler. Il y avait d'ailleurs, dans les caricatures du début du XXe siècle, la Chine était représentée par un espèce de petit enfant à côté de Cuba, de Porto Rico, etc., et il fallait lui amener la civilisation, le faire grandir. Et en fait, on retrouve ça dans les années 30, on retrouve ça aussi dans les années 70, justement, à partir du moment où on a l'impression que c'est les États-Unis qui vont expliquer à la Chine comment finalement on va se moderniser, comment on s'ouvre, qu'est-ce que c'est que l'économie, etc., etc. Et je pense qu'il y a une très grosse frustration, c'est-à-dire que l'influence et la pénétration des États-Unis qui allaient féconder la Chine, c'était le vocabulaire qui était utilisé quand même au 19e et au 20e siècle, on a l'impression de quelque chose d'un peu inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande angoisse des Américains, et on voyait beaucoup ça dans le discours du vice-président américain Pence le 4 octobre 2018, c'est d'expliquer que finalement ce sont aujourd'hui les Chinois qui pénètrent la société américaine à l'intérieur des universités, à l'intérieur de la high-tech, etc., etc. Donc cette pénétration inversée, si vous voulez, je pense que psychologiquement aux États-Unis c'est un réel problème parce que évidemment en termes d'identité, eh bien c'est une inversion par rapport à une histoire longue.
Et bien, puisque vous évoquez cette intervention du vice-président américain Mike Pence le 4 octobre dernier, écoutons-en un extrait.
As we speak, Au moment où nous parlons, Pékin utilise une approche pan-gouvernementale pour accroître son influence et protéger ses intérêts. La Chine a initié un effort sans précédent pour influencer l'opinion publique américaine, les élections de 2018 et l'environnement qui sera celui des élections présidentielles de 2020. Pour parler franchement, la politique du président Trump fonctionne et la Chine veut un autre président des États-Unis. En juin, Pékin a fait circuler un document sensible intitulé « Instructions de propagande et de censure ». Il y expose sa stratégie. Il y est spécifié que la Chine doit, selon leurs mots, frapper avec précision et prudence pour diviser les groupes composant les États-Unis d'Amérique.
Voilà, donc ça c'est le vice-président des États-Unis. C'était au début du mois d'octobre, un discours quand même assez fort. Question Laurence Nardon et question Valérie Niquet, c'est-à-dire Laurence Nardon, à qui était destiné ce discours? Il faut rappeler quand même que début octobre, on est encore dans la campagne électorale des midterms. Donc est-ce que c'est avant tout un discours qui est censé s'adresser aux Américains pour dire, bah regardez, voilà comment nous traitons la Chine, on ne va pas se laisser faire. Il y avait une dimension électoraliste. Et la question que je poserai ensuite à Valérie Niquet, c'est comment est-ce que ce type de discours peut être perçu par les Chinois? Et d'abord les raisons d'un tel discours aux États-Unis de la part du vice-président américain, Laurence Nardon.
Ce discours, en fait, il vient, je crois, dans le contexte américain, signaler que sur ce sujet de la Chine, pour une fois, par rapport, par exemple, au sujet russe, la politique du président est à peu près raccord, on va dire, avec les opinions des parlementaires, enfin des membres du Congrès, qui sont globalement tous d'accord pour tenir un discours assez dur, assez ferme vis-à-vis de la Chine.
Alors, ça ne républicain va... et démocrate.
Républicain surtout, démocrate aussi, et faire passer l'annonce des guerres commerciales à venir. Alors sur laquelle, pour le coup, les démocrates et les républicains du Congrès sont moins d'accord avec le président. Je pense que c'est absolument ce qu'il veut dire.
Valérie Niquet.
Il me semble aussi que de toute façon la division sur la Chine, elle passe à travers le parti républicain et le parti démocrate. Certains démocrates sont particulièrement conservateurs sur la Chine aussi, et des républicains beaucoup plus ouverts à une coopération avec Pékin traditionnellement. Pour Pékin, évidemment, c'est dans toute sa splendeur la théorie de la menace chinoise qui s'exprime et qui est régulièrement dénoncée par le régime chinois, qui veut ou voudrait démontrer que la Chine n'est pas une menace, que la seule relation possible avec Pékin, qui est une puissance émergente, est une relation de coopération et d'intégration progressive au système mondial. Et la question qui se pose, évidemment, c'est que ça entre en contradiction avec une ambition chinoise également très affirmé quand on lit la presse chinoise et ce qui se publie d'une manière très ouverte, qui est que Pékin pense que son heure, certains à Pékin, parce qu'il y a un vrai débat, que l'heure de la Chine est arrivée et qu'il est temps pour les États-Unis d'admettre le fait que finalement ils sont une puissance. Les Chinois ont intégré cette idée de puissance émergente et puissance descendante qu'on peut tout à fait discuter. Et ce qui est très curieux aussi, c'est qu'on a l'impression que le régime chinois tel qu'il est, c'est quand même très spécifique, veut s'affirmer avec les moyens de la puissance qui étaient ceux de la fin du 19e siècle, quand justement la Chine s'est effondrée face aux puissances occidentales, et refuse tous les éléments modernes, nouveaux, apaisés de la puissance, dont le contre-exemple parfait serait par exemple non pas les États-Unis mais l'Union européenne, ce qui explique aussi ces tensions très fortes avec l'autre grande puissance classique que sont les États-Unis de Donald Trump.
Mais est-ce que les dirigeants chinois affirment cette volonté de peser davantage à travers un discours qui peut être un discours aussi agressif que celui qu'on vient d'entendre de la part des Américains à l'égard des Chinois?
Ah oui, non, mais il suffit de lire la presse chinoise pour avoir des diatribes non seulement contre les États-Unis mais contre tout ce qui pourrait s'opposer à la position officielle de Pékin sur quel que soit le sujet. Et les pressions ne sont pas uniquement verbales, on se souvient notamment avec les Philippines, les guerres commerciales utilisées contre le Japon, les Philippines, d'autres pays qui ne respectent pas les positions position de Pékin. Donc Pékin n'a jamais hésité à utiliser le moyen de la guerre commerciale contre des voisins plus faibles. Par exemple, de même que les États-Unis le font face à la Chine. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une sorte de Chine qui serait totalement dans la globalisation. C'est le discours que la Chine utilise pour tenter de rallier l'Union européenne, le Japon, contre cette puissance américaine qui les inquiète fortement. Hein. Donc il faut bien voir que Donald Trump a des défauts, mais que peut-être il a aussi le mérite de faire réagir justement et de tenter d'aboutir à des évolutions nécessaires de la part de la Chine, si on veut qu'elle devienne vraiment cette grande puissance intégrée et constructive sur la scène internationale.
Pierre Grosser.
Alors la question de la Chine, c'est cette revanche finalement par rapport à l'histoire. Ça a été dit, c'est-à-dire ce fameux siècle des humiliations, en gros des années 1840 à 1949. Et donc tout le discours, c'est pour les Chinois de dire que à chaque fois que les Américains essayent de faire pression sur les questions commerciales, comme auparavant quand on faisait des pressions sur les questions environnementales, que l'objectif était d'empêcher la croissance naturelle de la Chine et à la Chine de reprendre finalement sa place historique, c'est-à-dire des grands empires. Il faut toujours avoir en tête que pour les Chinois, leur dynastie, leur histoire, c'est des milliers d'années et les États-Unis, c'est la fin du XVIIIe siècle, la naissance des États-Unis. Donc il y a vraiment une vision dans ce sens-là qui est bizarre. Du côté des États-Unis, il y a aujourd'hui, me semble-t-il, de plus en plus un consensus pour estimer que, un, on ne changera pas beaucoup la Chine, c'est-à-dire que l'espoir de transformer la Chine à l'image des États-Unis, sauf encore quelques idéalistes qui disent faut attendre, peut-être un jour ça arrivera, ça en gros c'est terminé. Mais plutôt cette interrogation, est-ce que finalement on n'a pas fait un peu le monstre de Frankenstein ? C'est-à-dire, on a ouvert la Chine, on l'a aidé à rentrer à l'OMC, et finalement, ça nous revient dans la figure. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, au lendemain de la guerre froide, et surtout au moment du 11 septembre 2001, on a commencé à parler du monstre de Frankenstein islamiste, avec Ben Laden, Al-Qaïda, etc., qui aurait été finalement favorisé par les Américains en s'alliant avec des islamistes contre l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on voit arriver un deuxième monstre, finalement, avec la Chine, que là aussi, on a essayé d'intégrer, qu'on a aidé à se développer face à l'Union soviétique, et qui, désormais, est une menace pour les États-Unis.
Mais les arguments qui sont développés par Donald Trump, en tout cas, qui étaient énormément développés, notamment pendant la campagne présidentielle en 2016, c'était de dire la Chine ne joue pas le jeu, ne respecte pas les règles du commerce international, et ça se traduit pour les États-Unis par une désindustrialisation, par d'énormes pertes d'emplois. Est-ce qu'on peut considérer, Laurence Nardon, que derrière ce discours strictement économique et social, disons, il y a aussi derrière une approche plus politique et peut-être, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à parler de doctrine, mais enfin en tout cas, l'idée que les États-Unis vont tenter de contenir la Chine dans la puissance qu'elle a aujourd'hui et faire en sorte qu'elle ne dépasse pas les États-Unis dans la suprématie mondiale.
En fait, oui, la position des administrations américaines récentes, elle cherche effectivement, mais je crois que ça forme un tout hein, quand vous parlez d'économie et de puissance. Je crois que l'idée de contenir, de cadrer l'émergence de la puissance chinoise au lendemain effectivement de l'explosion de puissance qu'elle a connue grâce à son entrée dans l'OMC, qui est quand même l'œuvre des États-Unis, elle est ancienne et elle date, on peut la faire remonter déjà à ce que disait Obama avec son fameux pivot vers l'Asie. C'est une politique qu'il avait lancée en 2011 et qui consistait déjà à faire du containment, c'est-à-dire à cadrer la Chine, notamment avec ce fameux accord commercial, le TPP, le Trans-Pacific Partnership, un accord que Trump, en arrivant à quasiment détruit puisqu'il en a retiré les États-Unis.
C'est incompréhensible d'ailleurs pour quelqu'un, oui. C'est-à-dire qu'il voudrait limiter l'influence de la Chine, il défait un traité dont ne faisait pas partie la Chine justement qui visait à...
Oui. Il y a une ambiguïté, il y a une contradiction effectivement dans la politique de Trump. Trump a fait, comme vous le rappeliez à l'instant, il a fait toute sa campagne en 2016 sur l'idée que le libre-échange était très mauvais pour les classes moyennes américaines. Et on voit aujourd'hui, il y a des études sérieuses d'économistes de Harvard qui montrent qu'un grand nombre, je crois que c'est 1,4 million d'emplois directs, 1,6 million d'emplois indirects ont été détruits par la délocalisation des usines. Alors c'est vers la Chine, mais c'est aussi vers le Mexique. Il y a aussi l'automatisation des usines. Donc c'est un phénomène plus large. Hein. Mais enfin, quand même, on doit aujourd'hui dire que la mondialisation des échanges, notamment avec la Chine, a nui à une certaine catégorie de population, et ce sont les classes moyennes des pays développés, puisque c'est là que les usines ont fermé pour se déplacer dans des pays où une main-d'œuvre comparable était payée beaucoup moins cher. Donc Trump a fait campagne là-dessus en visant le Mexique et la Chine comme ses ennemis principaux de la classe moyenne américaine. Et c'est pour cela qu'il a voulu détruire ce TPP, ce fameux traité transpacifique de commerce. L'administration Obama l'avait construit, l'avait conçu pour justement encadrer la Chine et encadrer ses méfaits économiques, le fait qu'il ne respecte pas la propriété intellectuelle, par exemple, et d'autres choses. Et Trump a voulu le détruire parce qu'il est contre le libre-échange plus globalement. Mais c'est vrai qu'en le détruisant, il remet la Chine en situation d'exercer un pouvoir commercial énorme dans le monde et probablement assez nuisible.
Et en même temps, en tout cas, au moins à court terme, ça semble quand même plutôt bien fonctionner, la stratégie de Donald Trump. Si on regarde, il y a cette trêve qui a été décrétée lors du dernier G20, c'était il y a pas tout à fait un mois, des concessions qui ont été concédées, comme toutes les concessions, et par les États-Unis et par les Chinois. Donc les États-Unis qui repoussent au 1er mars l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane. Côté chinois, suspension des droits de douane supplémentaires, là aussi suspendu pendant 3 mois, plus ouverture de certains secteurs aux investissements d'étrangers, interdiction du transfert de technologies forcées, de l'ingérence du gouvernement dans les opérations commerciales étrangères. Alors est-ce que ça c'est pour la vitrine, Valérie Niquet, ou bien il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui en Chine que à jouer ce jeu du conflit commercial, on a peut-être plus à perdre qu'à gagner?
Oui, alors justement, c'est là la grosse différence avec Trump, et c'est ce qui embarrasse énormément Pékin, c'est que Trump veut des résultats. Alors, il est aussi très très ouvert, semble-t-il, à la négociation. On a eu, certains en Asie ont eu très peur de voir les États-Unis de Trump négocier avec la Chine pour obtenir quelque chose sur la Corée du Nord ou négocier sur le dos de Taïwan. Enfin, il a des jeux très très, disons, complexe, si on veut être gentil. Mais ce qui est certain, c'est que là, il est assez ferme sur la question chinoise et Pékin s'inquiète énormément de ces tarifs. Parce qu'il faut bien voir qu'on parle beaucoup de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, qui pourrait remplacer les États-Unis. Mais c'est l'effet masse aussi qui joue. La Chine est encore un pays qui a des besoins colossaux en termes de croissance. Ça n'est pas du tout un pays qui a achevé son développement, même s'il y a une classe moyenne qui s'est développée. Les besoins sociaux sont considérables, ne sont pas du tout l'éducation généralisée, la prise en charge des retraites, un système de soins quasi inexistant, toute cette masse de migrants qui n'a aucun droit. Tout ça, c'est la Chine aussi. La Chine en a besoin. Et le régime, et il ne faut jamais oublier, en fait, quand on parle de la Chine, non, mais c'est un système politique très particulier dont l'objectif est de se maintenir au pouvoir. Un peu comme Lénine a eu la NEP qui a permis à l'URSS de respirer. Et bien là, on a une sorte de super NEP qui a duré des dizaines d'années, mais dont l'objectif est de maintenir le régime au pouvoir. C'est ce qui
donc
explique
d'ailleurs. Donc tout ce qui d'ailleurs peut créer de l'instabilité.
Voilà. Et on est extrêmement pragmatique. L'ouverture économique, c'était ça aussi. Mais ça explique aussi pourquoi la Chine, là, ne veut pas aller plus loin dans les réformes. Et c'est ce qui rend aussi ses espoirs d'intégration, ses espoirs de voir la Chine vraiment jouer le jeu, respecter les règles internationales, très illusoires. Parce que ça ne peut pas marcher avec ce type de système. Et face à Trump, qu'il soit face à un président des États-Unis qui, lui, veut des résultats. Et donc, il y a une pression très forte. Et les Chinois, encore une fois, quand on observe ce qui se dit et les débats qui ont lieu, sont extrêmement inquiets face à ces pressions auxquelles ils ne pourraient répondre que si, véritablement, le régime bougeait et bougeait au point de risquer de basculer vers autre chose. La reprise en main idéologique de Xi Jinping depuis 2012, c'est ça. Le régime avançait, était en train de bouger, et la peur, ça a été de le voir basculer et donc changer finalement.
Alors il était beaucoup question il y a quelques années de l'interdépendance des économies chinoises et américaines pour expliquer que si conflit commercial il y avait, ça ne pourrait jamais aller très loin. Est-ce qu'on en est toujours là, Pierre Grosser, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer que et les États-Unis et la Chine ont beaucoup à perdre à aller beaucoup plus avant dans ce conflit commercial et peut-être transformer ce conflit commercial en un conflit qui serait un conflit plus politique, disons?
Oui, je crois que beaucoup de monde a y perdre et qu'une des grandes forces de l'économie chinoise, c'est qu'il y a un certain nombre de gens en Occident et ailleurs qui ont intérêt à surfer sur la vague de la croissance chinoise, du développement chinois. Et donc, il y a des gens qui, entre guillemets, collaborent énormément. Et on a régulièrement des affaires sur des cabinets conseils, sur un certain nombre de firmes américaines qui, en fait, font leur beurre aussi avec les Chinois. Il faut bien voir que le point de départ au début des années 90, c'était de penser qu'en fait, il allait y avoir une division mondiale du travail, que tous les emplois de haute technologie allaient être aux États-Unis ou en Occident ou au Japon, et qu'il allait avoir les petites mains chinoises qui allaient fabriquer tout ça. Ça s'est en partie passé de cette manière, mais il y a un rattrapage technologique qui est extrêmement, extrêmement rapide. Mais ça a créé tout un tas d'interdépendances économiques qui font que la vision du commerce extérieur de Trump est très passéiste. Tous les économistes font remarquer que de considérer qu'il y a un pays qui importe, un pays qui exporte, etc. Aujourd'hui, quand vous avez des chaînes de production qui sont extrêmement complexes et vous avez des échanges intra-firmes qui font l'essentiel finalement du commerce international, ça pose tout un tas de problèmes. Et là, moi je suis pas tout à fait d'accord. Il y a, évidemment, les Chinois sont inquiets de ce qui est en train de se passer, mais aux États-Unis, on se pose quand même un certain nombre de questions. Parce qu'en gros, les exportations vers la Chine sont en train de diminuer. Il y a des gros problèmes avec les agriculteurs. Alors là, on reprend un petit peu quelques exportations de soja, mais pour le moment, c'est les Brésiliens qui sont en train de s'engouffrer dans la brèche, et le déficit commercial américain ne bouge pas. Au contraire, il a augmenté ces derniers mois. Donc oui, on voit des fragilités de l'économie chinoise, on voit des problèmes du marché, des marchés financiers, notamment celui de Shanghai, qui n'est pas en très très bonne forme. Un petit ralentissement de la croissance chinoise, donc il y a un certain nombre de signaux de ce type-là, mais il y a beaucoup d'économistes et de spécialistes de l'économie américaine qui s'inquiètent aussi des conséquences de ce conflit commercial.
Est-ce qu'on peut dire que les Chinois, d'ailleurs, peuvent espérer, à la faveur peut-être d'une réorganisation, notamment du commerce mondial, Valérie Niquet, avoir d'autres débouchés que les États-Unis pour leur permettre de poursuivre leur progression et d'accéder, si tant est que ce soit leur but, au rang de première puissance mondiale?
Alors, déjà, comme le disait Laurence Nardon tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que les avis sont différents sur cette guerre commerciale avec la Chine selon les secteurs aux États-Unis ou en Europe. Alors, l'autre grand marché pour la Chine, dont il faut bien voir que les exportations constituent encore une part très importante de leur produit national brut, et donc la Chine ne peut pas faire une croix sur les exportations vers les pays les plus développés, les États-Unis d'un côté, l'Union européenne de l'autre. C'est là que les ressources se trouvent. Alors évidemment, il y a d'autres marchés. Il y a l'Asie centrale, il y a la Russie, il y a l'Afrique. Mais ça n'a absolument rien à voir en termes de marché pour la Chine avec le marché américain et le marché de l'Union européenne. Et si Trump n'était pas aussi particulier, il ne se serait pas mis toutes les puissances à dos, c'est-à-dire en s'attaquant à la fois en même temps au Canada, à l'Union européenne, au Japon, sur les mêmes sujets. Parce que fondamentalement, l'Union européenne partagent les mêmes analyses que les États-Unis aujourd'hui face à la puissance économique chinoise et à ses pratiques. Et ça n'est pas hasard si pour la première fois l'Union européenne, qui est pourtant très libre-échangiste, enfin surtout les pays du Nord, accepte l'idée de contrôler les investissements, d'être beaucoup plus vigilant. Et il y aurait et la Chine justement était extrêmement inquiète de cette alliance possible entre le Japon, l'Union européenne et les États-Unis. Évidemment, notamment Trump offre un boulevard pour qu'on puisse enfoncer des coins entre ces différentes puissances.
Ah, c'est vrai qu'on évoque régulièrement, notamment depuis que Donald Trump est au pouvoir aux États-Unis, Laurence Nardon, l'isolement américain, mais peut-être que sur la question chinoise, justement, les États-Unis, même si les méthodes ne sont pas forcément toujours très bien acceptées par leurs partenaires, mais il n'y a pas à nouveau une forme de leadership américain pour essayer justement de garder un camp, disons, pour le local occidental suffisamment fort face à cette puissance émergente qui vise aussi à revoir les règles du multilatéralisme.
Mais je crois effectivement, Valérie Niquet le disait, qu'il y a aujourd'hui un consensus, mais qui est assez récent et qui il y a 10 ans n'était absolument pas, c'était vraiment des choses qu'on ne pouvait pas dire dans des cercles informés, l'idée que l'OMC, que la Chine a profité des conditions particulière qui lui était accordée pour mener pour entretenir des pratiques commerciales qui n'étaient pas justes avec le reste du monde. Alors on a parlé de droit de propriété, mais il y a aussi tout le travail des enfants, il y a aussi le respect de l'environnement. Enfin, il y a tout un tas de choses que la Chine fait et qui ne sont pas honnêtes en termes de commerce. Alors, pour employer un terme assez simpliste. Néanmoins, sur l'idée que Japon, États-Unis et Union européenne pourraient se mettre ensemble pour tenir tête à la Chine. Le premier problème, c'est effectivement que les pratiques de Trump ne sont pas traditionnelles en termes diplomatiques, donc ça pose un premier problème. Et la seconde chose, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aux États-Unis, c'est que l'Union européenne se sent très loin de la Chine. Plus loin que les États-Unis, plus loin que le Japon, et se sent moins concerné. Alors c'est peut-être en train de changer, mais c'est une préoccupation qui est peut-être plus lointaine pour les dirigeants européens, à tort. À tort, notamment parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a ce fameux projet Belt and Roads. Les nouvelles routes de la soie, par lesquelles la Chine cherche à construire une route maritime et une route terrestre d'accès à l'Occident.
Est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui la nécessité pour un certain nombre de grands pays ou plus petits pays, d'ailleurs Pierre Grosser, de devoir choisir leur camp, c'est-à-dire soit être du côté des Américains, soit être du côté des Chinois, comme il fallait choisir son camp pendant la guerre froide?
Non, justement, ça se passe pas comme ça, je crois. Et c'est quelque chose qui interroge sur la comparaison avec la guerre froide, où là, les camps étaient très nets. Il y avait pratiquement pas d'interdépendance entre les deux camps, enfin d'interdépendance économique. Or là, surtout en Asie, il faut bien voir qu'effectivement, le marché américain est encore important pour l'Asie, mais il est beaucoup moins qu'il l'était auparavant, c'est qu'il y a tout un tas d'interdépendances à l'intérieur de l'Asie, que le Japon, qui avait eu des relations dans les années 2010 assez difficiles avec la Chine, est en train, non pas de se jeter dans les bras de la Chine, mais avoir des bonnes relations avec la Chine, comme l'on a avec la Russie, ce qui parfois est un tout petit peu étonnant, que le Vietnam, aujourd'hui, est un endroit où il y a beaucoup d'investissements chinois-américains, parce que c'est aussi un endroit où on peut produire maintenant moins cher parce que les salaires en Chine sont en train d'augmenter. Donc il y a toute une redistribution du travail qui est en train de se créer. Et surtout l'idée que les pays asiatiques vont préférer les États-Unis plutôt que la Chine, alors qu'ils sont extrêmement dépendants, extrêmement liés économiquement à la Chine, je crois que ça, c'est très largement une illusion. Donc de refaire un containment comme on l'avait fait dans des périodes anciennes est assez illusoire, parce que aussi on a une confiance relativement limitée à l'égard des États-Unis. Mais personne, enfin en gros, l'idée, c'est que tout le monde a peur de se faire abandonner par les États-Unis, mais tout le monde a peur de se faire entraîner par les États-Unis dans une escalade avec la Chine. Et donc, ça rend un peu schizophrénique. Et on a l'impression, j'ai parlé du Vietnam tout à l'heure, c'est assez schizophrénique. C'est-à-dire, à la fois, on a des assez bonnes relations avec la Chine. En même temps, vous avez parlé de Matisse. Matisse allait deux fois au Vietnam cette année, ce qui est quand même assez, assez rare. Donc, voilà, il y a des choses très bizarres qui se passent, mais parce que on est dans des situations de dépendance économique que les Européens de l'Ouest ne connaissaient pas à l'égard de l'Union soviétique.
Alors, il y a ces liens économiques, mais il y a aussi des liens qui sont des liens stratégiques, qui sont des liens militaires. Est-ce que cette peur de se faire abandonner par les États-Unis, ça pourrait pousser certains pays à s'allier avec la Chine, si tant est que la Chine accepte justement ce système des alliances. On est quand même dans deux façons d'envisager les relations internationales assez différentes, Valérie Niquet, selon qu'on est aux États-Unis ou en Chine.
Les seuls alliés, entre guillemets, et encore avec de gros guillemets, de la Chine en Asie, c'est d'un côté le Pakistan et de l'autre côté la Corée du Nord. Donc en dehors de ça, alors la Chine, en revanche, les liens d'interdépendance économique existent et pèsent. Et le fait que ça dépend des États, mais notamment l'Asie du Sud-Est n'a pas envie de choisir entre les États-Unis et la Chine, mais ne veut pas non plus, ni même le Japon, mais ne veut pas non plus que l'un des trois disparaisse. C'est-à-dire que l'équilibre des forces est considéré comme nécessaire à la stabilité régionale. Et dans le cas du Japon, par exemple, c'est vrai qu'il y a un rapprochement cette année, Mais quand on va au Japon et qu'on discute, enfin, il est très très clair qu'il n'y a aucune illusion sur le futur des relations et la conflictualité fondamentale des relations entre le Japon et la Chine. Simplement, Tokyo et Pékin aujourd'hui ont intérêt à un certain apaisement, la Chine notamment, pour encore une fois tenter de trouver des contre-alliances face à cette puissance américaine qui inquiète beaucoup.
Voilà, et quand vous parlez d'ailleurs de conflictualité entre la Chine et le Japon, c'est pas uniquement une conflictualité commerciale, hein, c'est une conflictualité territoriale,
non, mais,
avec un certain nombre d'incidents.
Voilà, tout à fait, et c'est la même chose en mer de Chine méridionale, et il faut pas non plus minorer le fait qu'en Asie, évidemment on n'est pas au Moyen-Orient, mais on est dans une zone où la stabilité stratégique est un véritable enjeu. Et c'est la raison pour laquelle, même si les États-Unis inquiètent et on veut toujours s'assurer de leur engagement régional, personne aujourd'hui, en dehors de Pékin, ou peut-être de la Corée du Nord et encore, n'envisage une Asie dont les États-Unis se détacheraient ou se désintéresseraient et où la Chine pourrait remplacer. C'est justement ce que l'ensemble des pays de la région ne veut pas. C'est cette Asie unipolaire autour d'une recentrée autour d'un néo-empire chinois, évidemment, ce qui est le rêve de Pékin ou du régime chinois aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout la configuration que les pays de la région attendent.
Il y a pas de désengagement militaire, stratégique aujourd'hui, Laurence Nardon, des États-Unis en Asie. Ça reste quand même une zone importante, justement, pour la doctrine de politique étrangère américaine.
Oui, ils continuent à y faire des exercices et à maintenir leur soutien, ou en tout cas, non, pardon, leur opposition aux établissements chinois en mer de Chine méridionale. Mais du point de vue des États-Unis, je pense que l'engagement reste solide. Et en même temps, à l'inverse de la Chine, pour lesquelles le compétiteur principal est les États-Unis, pour les États-Unis, c'est une évidence, la Chine est considérée comme un ennemi potentiel, mais peut-être pas si loin, peut-être sur le même plan que la Russie et ses attaques cyber sur la démocratie américaine, que le Moyen-Orient qui continue à être un gouffre dont les États-Unis cherchent vainement à s'extraire depuis 2001. Et du coup, il y a cet arbitrage à faire à Washington avec des moyens qui ne sont pas extensibles à l'infini.
Pour autant qu'ils sont quand même beaucoup plus importants que les moyens chinois aujourd'hui. En tout cas, si on regarde du côté des capacités militaires, les États-Unis sont toujours très loin devant.
Les dépenses militaires américaines sont de 614 milliards de dollars par an et la Chine est seconde avec 215, je crois, en 2016.
Oui, enfin, ça dépend des chiffres. Le chiffre officiel, c'est 170 milliards de dollars, le budget de la défense chinoise, mais qui continue à augmenter tout à fait régulièrement. Après, il y a des chiffres qui ajoutent...
Oui, moi j'ai 215, mais bon. Et derrière, au troisième rang, on a la France, la Russie, l'Arabie Saoudite qui sont bien loin derrière. Donc la Chine est derrière, mais est deuxième quand même.
En préparant l'émission, j'ai découvert une notion, le piège de Thucydide, dont vous avez sans doute entendu parler les uns et les autres. Alors c'est certains politologues et prof Harvard, Graham Allison, qui en parle. Donc Thucydide, qui avait théorisé le fait que quand il y a une puissance dominante qui est confrontée à une puissance émergente, ça se règle la plupart du temps par une guerre. On n'a pas parlé de l'hypothèse d'un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine, Pierre Grosser. Ça reste dans le domaine des hypothèses, évidemment, aujourd'hui.
Alors, je vais faire beaucoup de contre-publicité pour le livre de Graham Allison, qui, effectivement, essaye de s'appuyer sur l'histoire pour réfléchir sur le rapport entre les États-Unis et la Chine. Et surtout, le grand exemple, c'est les relations entre les Britanniques et les Allemands, c'est-à-dire la Britannique en 1914, qui était la puissance émergente, un peu en déclin, qui était la puissance structurellement hégémonique, et puis la montée en puissance de l'Allemagne. Or, quand on connaît les origines de la guerre de 14, c'est pas lié à la rivalité entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc ça tient pas tellement debout. Mais ce qui est important, c'est qu'on le croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie interrogation pour savoir si les États-Unis sont la puissance hégémonique en déclin avec le Challenger qui monte en puissance et si ça va provoquer une guerre. L'autre, c'est alors quelque chose qu'on peut revoir historiquement avec cette impression que l'Union soviétique a été aussi le Challenger des États-Unis auparavant. En revanche, on peut faire aussi allusion au fait qu'on est passé de l'hégémonie britannique à l'hégémonie américaine sans guerre. Et à ce moment-là, on peut considérer, et certains le font, que le passage de l'hégémonie américaine à l'hégémonie chinoise se fera sans guerre, avec une période un petit peu compliquée de relations. Mais justement, et je reviens juste sur la question du Moyen-Orient, est-ce que les Américains, finalement, ne se sont pas trompés dans leur guerre contre le terrorisme, qui a permis finalement à la Chine de monter en puissance, comme d'une certaine façon les Britanniques se sont trompés en affrontant l'Allemagne en 1914, qui a permis l'émergence des États-Unis. Et ça, c'est une réflexion qu'en histoire, on peut avoir.
Eh bien, c'est un sujet que nous pourrions traiter, pourquoi pas prochainement. Merci en tout cas à tous les trois. Puisque vous avez parlé de contre-publicité, moi je vais faire de la publicité pour vos ouvrages respectifs. Les États-Unis de Trump en sans question, Laurence Nardon. La puissance chinoise en sans question, Valérie Niquet. Deux ouvrages aux éditions Talendier. Et puis Pierre Grosser, L'histoire du monde se fait en Asie, notre vision du XXe siècle chez Odile Jacob. Merci à tous les trois, merci à toute l'équipe du Grain. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2019. Demain, la France peut-elle faire plier les GAFA? On s'intéressera à la taxe contre les géants de l'Internet aux États-Unis.